Bonsoir, vous êtes en direct sur Radio Canu, l'émission Le Grain de Sable d'Atacrone. Et ce soir, nous allons évoquer le revenu de base ou le revenu universel. On va de toutes les façons déterminer ce qu'il en est exactement et nous accueillons pour en parler Jean-François.
Bonjour.
Bonjour. Et Romain.
Bonjour.
Voilà, donc il s'intitule Les écolo-humanistes. Alors c'est quoi les écolo-humanistes ?
Les écolo-humanistes, c'est un blog d'abord. On a créé un blog, donc c'est lesécolohumanistes.fr, il y a à peu près 3 ans. Et l'idée de base, c'était de dire que le développement durable, ça fait souvent un peu recette de cuisine. En fait, on met de l'environnement et du social pour surtout faire de l'économie. Alors que pour nous, il y a une hiérarchie, c'est ce qu'on appelle l'écologie humaniste. Il faut faire attention à l'environnement, qui est notre maison et on n'en a qu'une seule. L'humain doit rester l'objectif et l'économie doit redevenir un moyen.
C'est la priorité qui change, en fait. Hein. Bon, voilà.
C'est ça. Et du coup, on essaye de faire, en fait, une infographie par mois sur notre blog qui respecte l'environnement, et d'une initiative qui respecte l'environnement ou l'humain. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à parler du revenu de base ou du revenu universel.
Est-ce que vous traitez des sujets assez différents dans vos infographies ?
Ouais, bah en fait, tous les mois, on change du tout au tout. On a parlé de la permaculture, des monnaies locales, des économies d'énergie ou de l'électricité verte, du revenu universel. Voilà, c'est assez varié. Voilà. Mais ça garde toujours le même ADN, qui est cette hiérarchie des 3 piliers du développement durable, mais traité différemment. Quoi.
Et l'idée, c'est en fait de faire une porte d'entrée dans le débat. Souvent, on simplifie un peu l'idée. Parce que c'est l'intérêt pédagogique du schéma. Et après, on a toujours un article où on renvoie vers des liens pour pousser un petit peu.
Alors, qu'est-ce qui vous a amené à ça ? Comment ça a démarré ? Ça vient d'où, cette idée ?
Je pense que moi, historiquement, j'avais fait un cours sur le développement durable à la fac. Et justement, je trouvais que ça faisait un peu trop greenwashing, comme on dit. On repeint un petit peu en vert ce qui existait déjà. Et à partir de là, Romain est revenu sur Lyon, on en a discuté, et on était assez d'accord sur cette trilogie-là, et surtout sur la hiérarchie de cette trilogie. Et du coup, on a un peu allié nos compétences, moi en web marketing, lui en design, et on s'est dit que le format infographie était bien sur Internet, parce que ça permettait de faire circuler les idées plus facilement.
Alors le revenu universel, ça fait partie des infographies que vous avez publiées, ça n'est que l'un des aspects de votre action.
Ouais, c'est une infographie, en fait, c'était une des toutes premières, on avait déjà traité le revenu universel, on y est revenu plusieurs fois dessus, parce que en fait, c'est un sujet qui nous semble central. Parce qu'on se dit qu'avec un revenu universel, alors c'est toujours pareil, ça dépend comment on le configure, mais ça peut être un vrai outil d'émancipation et du coup au service de toutes les autres initiatives écolo-humanistes. Parce que par exemple, ça pourrait libérer du temps pour s'investir dans des associations, pour faire de l'économie autrement, consommer local, bio. Voilà. Et du coup, pour nous, c'est vraiment un outil. Et comme on le disait, l'économie, ça doit être un moyen. Et donc là, c'est un moyen totalement économique, puisqu'on parle d'argent, mais qui est au service finalement de l'humain et de l'environnement.
Et puis, je pense qu'on le verra dans la suite, c'est un outil économique, mais qui demande quand même à changer fondamentalement beaucoup de choses dans le système. Quoi. Ça veut dire aussi remettre en cause l'ensemble du système.
Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait, en fait, on a 2 infographies principales sur le revenu de base. Et l'idée, c'était de dire, la première infographie, c'est de présenter le concept. Et en fait, il y a un concept et plein de concrétisations possibles. La première infographie, c'était de présenter ce concept et d'ouvrir grand les portes et de dire toutes les possibilités qu'il y avait. Et la deuxième infographie qu'on a fait, donc là, qui est celle du mois dernier, c'était notre concrétisation à nous, donc notre revenu de base idéal. Donc c'est pour ça qu'on a fait 2 fois et qu'on est revenu sur le sujet.
Bon, alors au niveau des définitions, revenu de base, revenu universel, est-ce que ça regroupe des éléments qui sont différents ou ça signifie à peu près la même chose ? On entend à peu près tout là-dessus.
Oui. Donc tous les termes sont à peu près équivalents. En tout cas, c'est le même concept. Après, voilà, c'est plutôt une question de sémantique. Voilà, de base, ça fait plus petit peut-être comme concept, alors que universel, ça fait plus ouvert. Voilà. Mais ça, c'est une question de termes. Après, la définition est la même. En fait, c'est le mouvement français pour un revenu de base qui regroupe en fait tous ceux qui défendent ce concept-là, qui a fait une définition qui fait consensus parmi tous les mouvements C'est pour la promotion du revenu universel. Et il y a principalement trois conditions pour définir un revenu universel.
Alors,
c'est le
définition.
Fait que ce soit pour tout le monde,
tout le monde.
Que ce soit universel, que ce soit sans conditions. Ouais. Par exemple, les conditions de ressources qu'on a pour le RSA. Là, il n'y en aurait pas. Et individuel, oui, voilà ça.
C'est pour ça, en fait, par exemple, si on reprend ces trois critères-là, le RSA, par exemple, c'est ni universel, il y a des conditions de ressources, et en plus, c'est même pas individuel, parce que si on prend deux personnes dans un couple qui auraient le droit individuellement au RSA, ils vont pas avoir le droit à deux fois le RSA, ils vont avoir, je sais pas le coefficient exact, mais c'est moins que deux fois le RSA.
D'accord.
Et quand on dit universel, dire pour tout le monde, est-ce que ça veut dire à partir de sa majorité ou à partir de sa naissance ?
Alors dans la définition même, ça veut dire de la naissance à la mort. Et après, donc ça c'est le concept général. Et après dans les concrétisations, dans les modèles que une ou l'autre personne défend, bah là c'est chacun qui fait son modèle. Le plus souvent, c'est une plus petite somme pour les mineurs et une somme après pour les majeurs, donc de 18 ans jusqu'à la mort, qui est équivalente. Quoi.
Et une autre question se pose aussi pour les mineurs, c'est est-ce qu'on le donne aux parents ? Est-ce qu'on le met sur un compte bloqué et qui fera un petit pécule au niveau des 18 ans ? Il y a plusieurs versions qui sont comme ça, et dans la majorité des versions qui sont configurées, l'idée c'est de donner une plus petite somme et directement aux parents.
Voilà, qui en fait remplace le système de quotient et d'allocation familiale d'aujourd'hui, mais en le simplifiant du coup.
Bon, alors le principe de base, c'est celui qu'on vient d'évoquer, tout le monde sans condition individuelle. Et est-ce qu'il y a sous-jacent à tout ça, ça implique une philosophie globale, ça vient d'où, ou est-ce que c'est que du pratique et de la réflexion, ou alors ça s'inscrit dans un cheminement qui va chercher ses origines un peu plus loin.
Déjà, ce qui est marrant, c'est que là, c'est vendu comme une idée nouvelle.
Ben oui.
Mais en fait, ça fait plusieurs siècles qu'on y réfléchit. Et donc, un des premiers penseurs qui a parlé du revenu de base, c'était Thomas Paine, au 18e siècle. Et l'idée, c'était de se dire, en fait, la terre, on en a hérité tous. Et c'est pas normal que certains s'approprient un bout de cette terre-là. Et l'idée, c'était de dire, vu que tout le monde n'a pas un lopin de terre, pour se nourrir, il faut, en contrepartie, donner une somme d'argent à tout le monde. Donc ça, c'est le côté partage des richesses, c'est quelque chose qui est vraiment sous-jacent et qui est historique au niveau du revenu de base.
C'est ancien, alors.
Ouais, une des deuxièmes raisons historiques, c'est la lutte contre la pauvreté.
Bien sûr.
Puisque, forcément, si on donne une somme d'argent à tout le monde... ils auront au moins cette somme d'argent-là. Et après, toute la problématique, c'est de dire quel est le niveau de cette somme d'argent. Mais par exemple, pour notre présentation, on avait listé une quarantaine d'aides qui existent aujourd'hui en France pour lutter contre la pauvreté. Donc c'est très compliqué, ça veut dire qu'il faut contrôler les gens pour savoir s'ils y ont droit ou pas. Il y a tout un système, et en plus il y en a 40, donc même quand on y a droit, on n'est pas sûr de le connaître, parce que c'est tellement varié. Et aujourd'hui, on a 14% à peu près de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc en France, c'est à peu près 1 000 euros par mois. Donc ça fait un peu moins de 9 millions de personnes aujourd'hui en France qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc ça pourrait être un outil de lutte contre la pauvreté assez direct, puisque on donne de l'argent à tout le monde d'un coup, quoi.
Et sur ce côté pauvreté, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a ce côté, toute personne doit pouvoir survenir à ses besoins, je ne me souviens plus de la formulation exacte.
Ouais, c'est évoqué.
C'est évoqué, et finalement, ce n'est pas concrétisé pour l'instant. Donc on peut se dire aussi que le revenu de base serait une manière de concrétiser. Ce n'est pas forcément la seule manière, et ce n'est pas pour solde de tout compte, c'est souvent une des critiques qu'on fait au revenu de base. Mais voilà, c'est un outil parmi d'autres qui peut aller vers cet objectif-là.
Oui, donc il y a autant ce droit qui est même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et une conception, quand vous parliez de Thomas Paine, qui est un peu de compensation et de rééquilibrage.
Oui, c'est vraiment une notion de droit, et c'est comme ça, nous, qu'on essaye de faire la promotion du revenu universel. C'est de se dire, on a le droit de vote, et pourquoi on n'aurait pas le droit à une vie décente, quoi, en fait.
Moi, ce que je trouve intéressant, après, on pourra rentrer dans le détail, mais c'est que ça renverse un peu la table dans le sens où pour l'instant, en fait, tout le monde se débrouille, et si des fois on ne se débrouille pas assez bien, eh ben on va avoir une allocation en compensation si on est trop pauvre ou si quelque chose. Tandis que là, on donne une allocation, on fait confiance aux gens, et si des fois ça marche vraiment bien, bah, selon le système de financement, les gens vont autofinancer leur revenu de base, voire vont le financer pour d'autres personnes. Mais ça renverse un peu la logique. Plutôt que de dire débrouillez-vous et après on vous aide, là c'est on vous fait confiance et après on voit ce qui se passe.
Alors, est-ce qu'il y a eu des tentatives, des essais, des expériences de cette nature par le passé ? Et qu'est-ce que ça a donné ? Ou est-ce qu'il y en a actuellement ? Mais plus d'abord par le passé, puis après on verra aujourd'hui.
Il y en a eu, et il y en a de plus en plus.
Oui.
Historiquement, c'était en Amérique du Nord, les premières vraies expérimentations qui ont été faites, notamment au Canada. Où en fait c'est le père ou le grand-père
de... C'est le père du premier ministre actuel, Justin Trudeau.
Qui avait mis en place en fait l'expérimentation sur la ville de Dauphin, donc qui est une ville de 12 000 personnes. Et c'est l'équivalent qui a été donné pendant 5 ans, et c'est l'équivalent de 800 euros actuels. Donc c'était pas 800 euros à l'époque, mais en dollars constants, ça fait l'équivalent de ça. Et donc, pendant 5 ans, ça a été mis en place. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une hausse de la scolarisation, une baisse de la pauvreté et une baisse des hospitalisations. Donc là, c'était un paramètre intéressant. Au niveau de la hausse de la scolarisation, ce n'était pas forcément les gens qui reprenaient leurs études. C'était plus au niveau masse globale. Les étudiants n'acceptaient pas forcément le premier job venu. Et en fait, ils prolongeaient leurs études d'autant pour avoir un emploi qui les intéressait.
Et pourquoi ça s'est arrêté, alors, au bout de 5 ans ?
Changement de majorité. Sur le côté, ils l'ont fait, donc moi, je suis dans l'opposition et je ne le fais pas. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que ça revient maintenant sur la table et que, justement, son fils, qui est Premier ministre, veut le mettre en place. Et là, l'idée, ça serait de le tester au niveau d'une province, l'Ontario, au niveau complet.
Parce que les expérimentations qui existent, elles se sont souvent faites à des échelles assez réduites.
En fait, on a toujours des limites dans les expérimentations, et souvent d'ailleurs le temps est donné dès le début. Par exemple, au Canada, c'était prévu pour que ça dure 5 ans. Alors peut-être qu'avec la même majorité, ça aurait été prolongé ou élargi, mais bon, c'était prévu pour que ça dure 5 ans, donc ça a duré 5 ans. Et en fait, on a deux types d'expérimentations, soit toute la population d'un lieu, comme au Canada, donc la ville de Dauphin, c'était tout le monde, soit... une typologie, par exemple, comme en Finlande aujourd'hui, c'est que des chômeurs. Donc, ils ont tiré au sort 2000 chômeurs. Donc là, c'est réparti sur tout le territoire. Mais par contre, c'est un type de personne très précis. Et donc, en fait, ça dépend toujours des objectifs qu'on a par rapport à cette expérimentation en question. Et qu'est-ce qu'on veut démontrer, en fait.
Pour rebondir peut-être sur la Finlande, parce que c'est l'exemple le plus actuel, il y a eu beaucoup de raccourcis dans les médias qui disaient que l'année dernière, ça avait été mis en place. Du coup, nous, ça nous a arrangé parce que ça a fait parler du sujet, mais c'est pas vrai. En fait, l'année dernière, ils ont pris un an pour réfléchir à comment ils le testaient. Et c'est donc ce dispositif-là que nous, on trouve réducteur, où ils testent que
c'est
sur des chômeurs.
Ouais,
non, mais voilà. C'est pas universel. C'est plutôt un montant qu'on trouve faible, au niveau 560 euros. Et c'est surtout leur grille de lecture, et c'est là où on peut se poser la question des expérimentations. Il y a toujours un biais en fonction de ce qu'on en attend. Et en Finlande, la principale grille de lecture, c'est de se dire, est-ce que ces 2000 chômeurs, à la fin des 2 ans, en leur donnant ces 560 euros, ils auront retrouvé un emploi ? Alors que pour nous, justement, le revenu universel, ça peut questionner cette centralité de l'emploi. Et c'est pas forcément juste, est-ce que je vais retrouver un emploi au bout des 2 ans, qui dit si c'est une réussite ou pas.
D'autant que, en fait, le système ressemble assez à celui qu'on a chez nous. Donc, quand on est au chômage, si on retrouve un emploi, on perd une toute ou partie de son allocation chômage. Et du coup, les gens ne veulent pas forcément avoir un emploi à temps partiel parce qu'en fait, ils vont être perdants dans l'addition. Donc là, l'idée, c'est de dire si on automatise ces 560 euros, si les personnes ont un emploi à temps partiel, ils vont garder ces 560 euros et ça sera forcément plus avantageux. Donc finalement, le vrai objectif, c'est de se dire. Comment on peut faire pour remplir les emplois à temps partiel ou les emplois pénibles ? Et finalement, c'est vraiment ça l'objectif de leur revenu universel, oui. C'est de se dire, on va enfin trouver des gens pour faire les boulots que personne ne veut faire. Donc voilà, pour nous, c'est un petit peu dommage.
Il faut aussi regarder quel type d'emploi ils auront retrouvé, c'est aussi ça.
Et oui, oui.
Et le revenu installé, enfin, qui s'installe en Finlande sur ces personnes qui sont tirées au sort, ça va remplacer leur allocation chômage ou...
Pour l'instant, en fait, c'est inclus dedans. Pour l'instant, par exemple, on prend un exemple, quelqu'un qui a le droit à 800 euros d'allocation chômage, il a toujours ses 800 euros, qui sont 560 euros de revenus de base, plus la différence. Et en fait, dès qu'il va retrouver un emploi, jusqu'à présent, il perdait ses 800 euros qu'il avait le droit, tandis que là, il va avoir sa rémunération de l'emploi. Et il va avoir 560 euros en plus.
Voilà.
Donc c'est un peu une carotte en disant, vous les aurez en plus une fois que vous aurez trouvé un emploi.
Est-ce que le revenu universel tourne tout le temps autour de l'emploi ? Est-ce que c'est directement lié ou est-ce que ça peut être dissocié ? Souvent, quand on parle du revenu universel, on en revient à parler de l'emploi. Le revenu universel est-il obligatoirement lié à des notions d'emploi ou peut-il être envisagé indépendamment de toute considération d'emploi ou pas ?
C'est forcément un petit peu lié. Après, il faut voir ce qu'on met derrière emploi, parce qu'il y a souvent emploi et travail. Pour nous, dès qu'on fait la présentation sur le revenu universel, on fait bien la différence entre les deux. L'emploi, ça va être du travail rémunéré, mais il y a aussi du travail en dehors de l'emploi.
Bénévole.
Par exemple, bénévole, nous, ce qu'on est en train de faire à la radio, est-ce qu'on travaille ou est-ce qu'on ne travaille pas ? On n'est pas employé, mais par contre, on ne peut pas dire qu'on ne travaille pas ou qu'on n'apporte rien à la société. Donc, il y a cette première chose-là. Et après, la deuxième chose, c'est de dire, voilà, on a parlé de pauvreté comme justification philosophique, on a parlé de redistribution des richesses. Et par contre, si on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est aussi que ça participe, et c'est une réponse, à l'évolution du monde de l'emploi. Donc il y a des gens qui appuient peut-être un peu trop sur la disparition du travail, la disparition pas du travail, justement, de l'emploi. Ça on peut pas savoir, il y a des débats, savoir si on va pas recréer plus d'emplois que ce qui est en train d'être détruit, mais dans tous les cas en fait, nous comment on justifie ça, c'est de se dire que la protection sociale en fait elle a été créée pendant les 30 Glorieuses ou à une période où l'emploi était très stable et où on changeait peu d'emploi pour une période courte, tandis que là l'idée c'est de se dire que l'emploi est beaucoup plus précaire et beaucoup plus fragmenté, on n'aura pas le même emploi pendant 40 ans et on peut même avoir plusieurs activités dans une journée. Donc le revenu de base, plutôt que de l'opposer à l'emploi, l'idée, ça serait plus de dire c'est un filet de sécurité pour pouvoir passer d'une activité à l'autre, pour pouvoir lancer une activité, développer des choses qui ne sont pas forcément économiquement viables, mais qui peuvent être bien pour la société. Du coup, à mon avis, c'est lié, mais il ne faut pas forcément les opposer.
Après, ça peut être aussi donner un pouvoir de négociation à quelqu'un qui cherche du travail pour ne pas accepter justement n'importe quel emploi ou très mal payé.
En fait, le revenu universel, ça permet de déconnecter le revenu, justement, de l'emploi ou du travail. Donc, ça permet aussi de reconnaître du travail qui n'est pas forcément reconnu aujourd'hui parce qu'il est bénévole, parce que, voilà, par exemple, élever ses enfants, on va se dire, ah bah, la personne, elle ne fait rien. Alors que c'est très, très utile pour la société. Mince, j'ai oublié la question, du coup.
Oui, je parle de la question du pouvoir de négociation.
Oui, voilà, du coup, bah, ça dépend du montant. Alors, c'est toujours. Ça dépend toujours un peu des concrétisations. Suivant qu'on donne 400 ou 1000 euros, forcément, on n'a pas le même pouvoir de négociation. On se dit que si on donne 400, par exemple, ça va plutôt faciliter l'employeur à baisser notre salaire parce qu'il va dire vous avez déjà 400.
Mais c'est aussi le risque que les petits salaires soient encore plus.
Voilà, parce que du coup, on ne peut pas dire non parce que ça ne suffit pas. Mais par exemple, si on se dit qu'on a un revenu universel à 1000 euros, du coup, là, on a un vrai pouvoir de négociation. Et du coup, les deux parties sont égales au moment de signer le contrat. Et donc là, on peut se dire que les emplois les plus pénibles, soit ils vont être mieux rémunérés, soit les conditions de travail vont s'améliorer. Et du coup, voilà, la négociation va être finalement plus équitable. Et on va avoir quelque chose de plus juste aussi.
Je vous propose une petite pause musicale.
Eh bien, on vous en prie, cher ami.
Continuez.
Oui, oui. Alors, c'est quoi ? Thank you. Bon ben, c'était un choix que vous aviez fait pour évoquer quoi ?
Voilà, du coup, Monet de Pink Floyd, c'était un peu pour voilà, la critique de l'argent roi, un peu justement de l'économie pour l'économie. Et, bon, c'était pour rejoindre un peu les écolo-humanistes, pour dire que l'économie, ça doit être un moyen et pas un but. On vous invite à regarder les paroles, du coup.
Peut-être de plus près.
Ouais. Ouais.
Bon, voilà. Alors, plus particulièrement pour ce qui vous concerne, votre là on a parlé globalement de la philosophie globale, etc. Vous, quelle particularité vous vers quoi vous vous orientez au niveau de vos propositions et quel type de revenu de base et comment l'inscrire, voilà.
Du coup, nous, on a un rêve, on l'appelle le rêve, donc c'est le revenu émancipateur pour vivre épanoui. Et l'idée, c'est on part de la devise de la République, donc liberté, égalité, fraternité, et on la renverse, donc fraternité, égalité, liberté, et on se pose la question, donc déjà on fait le constat au niveau de la fraternité, donc il y a 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté.
Qui est de combien ?
Qui est de 1000 euros par
mois. Oui, c'est 1000. Ouais, d'accord.
En fait, le seuil de pauvreté, il est toujours calculé, c'est 60% du salaire médian de la population. Donc, c'est la moitié qui gagne moins, la moitié qui gagne plus. Et pourquoi on fait ça pour calculer le seuil de pauvreté ? C'est parce qu'on voit bien que c'est pas au même niveau monétaire qu'on sera pauvre en France qu'on sera pauvre en Afrique. Donc, bien c'est sûr. Toujours par rapport à une société qu'on est pauvre et c'est pas monétairement. Donc, du coup, fraternité.
Alors,
sur ce côté-là,
il y en a 9.
Égalité, donc on voit que si on partage le patrimoine en deux en France, les 10% les plus riches possèdent autant que les autres 90%. Donc on peut aussi interroger ce côté égalité. Et liberté, où pour l'instant, on subit plus, on ne choisit pas vraiment son emploi et ses activités, et on doit se définir par un emploi.
Et du coup, on a souhaité y répondre sur ces trois points-là, en se disant pour lutter contre la pauvreté, il faut un revenu qui soit au niveau du seuil de pauvreté.
Eh oui.
Donc un revenu universel de 1000 euros par mois. Du coup, forcément, on répond directement à cette problématique-là. Sur l'égalité, on se dit que du coup, il faut le financer par de la redistribution. Alors, ce ne sera jamais le seul modèle de financement, parce que, par exemple, le RSA, il n'y en aura plus besoin, les APL, il n'y en aura plus besoin, donc il y a de l'autofinancement quand même, toujours.
Il y a déjà.
Il y a déjà de l'argent dans l'État, mais qui ne servira plus.
On verra le financement après,
voilà,
peut-être.
Mais du coup, c'est par la redistribution.
Mais on retrouve un peu ce que les principes de Thomas Paine, c'est parce que vous parlez du patrimoine, c'est aussi
ça, oui.
Rééquilibrer vers quelque chose. Exactement. Qui n'est pas les revenus du patrimoine. Ouais.
Et du coup, le troisième, donc la liberté, c'est de se dire, si on a un revenu suffisant, du coup, qui serait à 1000 euros, on sera plus libre de choisir son ou ses activités, que ce soit de l'emploi rémunéré ou du travail bénévole dans une association, ou même élever ses enfants.
D'où le terme d'émancipation émancipateur que vous avez.
Et d'épanouissement aussi, puisque du coup, si on est plus libre, on peut peut-être trouver une activité qui nous plaît et dans laquelle on sera plus heureux, quoi.
Et du coup, c'est en fait le thème de notre dernière infographie, l'infographie numéro 31, pardon. Elles ont toutes un numéro. C'est justement ce rêve qu'on illustre comme ça. Et tu peux peut-être parler du côté liberté, de comment on a choisi de l'illustrer.
En fait, on a illustré la liberté par les abeilles qui butinent. Puisque, en fait, aujourd'hui, on a l'impression que les abeilles, elles rapportent de l'argent en faisant du miel. Alors qu'en fait, leur vrai apport, c'est la pollinisation. Et c'est la société, c'est exactement la même chose. En fait, y a toutes les entreprises qui créent de la valeur ajoutée et on a l'impression que c'est ça qui est central. Alors qu'en fait, on a un tissu associatif, et notamment en France, qui est très important. Et on peut se dire que sans ce tissu associatif, en fait, tout s'écroule, même les entreprises qui créent de la valeur. Et voilà, c'est pour ça qu'on a choisi l'abeille, parce qu'il y a ce rapport-là. Et finalement, le revenu universel, c'est une reconnaissance de la pollinisation et pas que du miel, quoi.
Moi, alors, je dirais bien une petite chose par rapport à ça. Je trouve que ce qui est intéressant quand même dans ce projet, c'est que ça fait appel à la fois, à la solidarité collective, à la vie en société, on ne vit pas seul. Ça fait appel aussi, je trouve, à la fois à l'intelligence individuelle et à l'intelligence collective. Parce qu'on entend toujours dire « Ah oui, des assistés, ça va être encore un encouragement à la paresse. » Et alors, la paresse, c'est pas forcément si mal que ça. Mais là, je trouve que pour le coup, on fait appel à l'intelligence, tout simplement. On fait confiance et on fait appel à l'intelligence.
Ouais, c'est ce qui est très important, je crois, que c'est qu'en fait, on fait confiance. On donne et puis on aura forcément un retour de toute façon. Et la paresse, peut-être, mais personne ne restera 40 ans sur son canapé à rien faire. La paresse, ça dure un temps et puis pourquoi pas, pour l'épanouissement personnel, ça peut être très bien. Mais ça ne durera jamais toute une vie, forcément qu'on va faire quelque chose de collectif. Et ce qui est très intéressant dans le revenu universel, c'est qu'on le donne de manière individuelle. Alors on pourrait se dire que c'est très individualiste. Alors qu'en fait, c'est très collectif, parce qu'à partir de ça, on fait société tous ensemble.
Oui, c'est vous repartiez de liberté, égalité, fraternité. C'est vraiment quelque chose, effectivement, qui fait société, qui soude tout le monde.
Et peut-être pour rebondir sur le côté assisté, c'est aussi une des raisons de l'inconditionnalité. Parce qu'en fait, on dit souvent, dès qu'on fait une politique pour les pauvres, ça donne une pauvre politique. Parce qu'en fait, on sépare la société en deux, entre d'un côté les bénéficiaires qui se retrouvent traités d'assistés, et de l'autre côté ceux qui vont le financer. Alors que finalement, là, on le donne à tout le monde participe un petit peu à son financement en fonction de ses moyens. Mais voilà, c'est ce côté, on ne va pas faire. En fait, ce qui marche le mieux dans la société actuelle, c'est le chômage, c'est la sécurité sociale, et c'est toutes des politiques qui sont assez universelles. Comparé au RSA, où on a ce discours de stigmatisation, où à la fois les bénéficiaires et ceux qui le financent peuvent ne pas être satisfaits du système.
Ouais, pour nous, c'est vraiment un nouveau pilier de la sécurité sociale, et donc c'est vraiment comme la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'on soit riche ou pauvre, bah, quand on va chez le médecin, on est remboursé exactement du même montant. Par contre, quand on est riche, bah, on cotise plus que quand on est pauvre, et donc on participe plus au financement, mais à la fin, on a exactement la même chose. Et je pense qu'il faut le comparer à ça, comme un nouveau pilier de la sécurité sociale, comme un droit, et pas comme de l'assistanat. Ça n'a rien à voir avec le RSA, par exemple.
Oui, parce qu'on parlait d'assistanat, mais il y a aussi des personnes qui critiquent le fait pourquoi on donnerait le revenu de base, ce serait presque du gâchis, à des gens qui gagnent 2, 3, 4 000 euros.
Oui, voire plus, hein, parce qu'il y en a qui gagnent beaucoup plus que ça encore. Mais voilà, nous, c'est ce qu'on dit justement, c'est que bah, pour la sécurité sociale, c'est déjà comme ça, et visiblement, ça pose de problème à personne. Enfin, j'entends pas souvent des gens dire pourquoi on rembourse le rhume de Madame Bettencourt, alors qu'elle a largement les moyens de se payer un médecin. Et c'est beaucoup plus simple, surtout. C'est beaucoup plus simple de donner la même chose à tout le monde, et du coup, de pas avoir à contrôler les gens, de pas avoir à... est-ce qu'on est assez pauvre, est-ce qu'on n'est pas assez pauvre, et du coup, toujours être en train de frauder, enfin, de lutter contre la fraude et tout, ça demande beaucoup de moyens en plus, donc finalement, ça coûte de l'argent de contrôler les gens. Alors que c'est beaucoup plus simple bah, de donner la même chose, et puis finalement, de taxer plus ceux qui gagnent plus, puisque c'est principalement eux qui vont financer la mesure.
Donc on arrive quand même à un lien très fort avec aussi, et ça fait aussi société, le système de l'impôt.
Forcément, c'est une partie du financement. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre vision du revenu universel. Après, tous les modèles ne sont pas comme ça.
Hein. Ce qui est peut-être important aussi, c'est que dans les trois points qu'on vous a dit de la définition, il y a le côté individuel. Et souvent, les revenus de base qui sont configurés vont faire passer à un système d'imposition lui aussi individuel. Pour que le système soit assez cohérent et qu'en termes de financement, ça fonctionne bien, on passe souvent au côté individuel. Et donc, bah, on donne quelque chose de manière individuelle, mais aussi l'impôt est calculé de manière individuelle.
Alors, le fait que vous repreniez liberté, égalité, fraternité, et que vous trouviez en face de chaque concept une solution, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que la République aujourd'hui ne joue plus son rôle ?
Ne joue plus son rôle, je sais pas, il y a toujours une partie qui est déjà... je pense que quand même l'État fait une partie de la devise.
Une partie alors.
Mais visiblement c'est pas complet.
Ça permettrait de compléter le rôle de la République qui aujourd'hui s'arrête...
C'est de redonner finalement toute sa valeur à la devise en fait. Enfin, nous c'est notre revenu universel idéal quoi.
Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, le revenu universel, quelque part, sur le côté individuel et sur le côté confiance, il y a toujours un côté libéral qui est derrière. Et c'est pour ça que sur le plan politique, il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître derrière. Ils ne le configurent pas tous de la même manière. Et nous, ce qu'on voulait, parce que c'est reconnu comme libéral et des fois c'est critiqué comme libéral, et nous, ce qu'on voulait faire, c'était justement équilibrer avec cette devise qu'on trouve plutôt bien pensée. C'est de dire, bah oui, c'est libéral, on l'assume, et c'est le côté, parce qu'il ne faut pas confondre libéralisme et néolibéralisme. En fait, libéralisme, c'est plus donner de la liberté aux gens. Et le néolibéralisme, c'est plus de c'est dire économique. Que le marché est supérieur à l'État ou à la société. Donc oui, ça a ce côté libéral dans le sens de développer les libertés, mais pour nous, pour que ça soit un vrai outil de société, il faut rajouter de la fraternité et de l'égalité.
Alors tout ça, c'est pas d'abord, c'est pas équivalent pour tout le monde. Et ensuite, ça se finance comment?
Du coup, il y a trois grandes familles de financement.
Alors d'abord, voilà.
Du coup, il y a l'autofinancement. Oui. La première grande famille, de se dire bah justement, les allocations, donc on en a listé une quarantaine.
Est-ce que vous avez chiffré globalement, annuellement, le coût, pour oui. donner un ordre de grandeur?
De toute façon, après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a le coût, mais il y a aussi le financement qu'il faut toujours mettre en rapport. Voilà. Au niveau du coût global, voilà. Si on prend 1 000 euros fois 60 millions de Français, donc fois 12 mois, on en arrive à 650 milliards.
Voilà, mais tout le monde ne va pas toucher 1 000 euros, les enfants, par exemple.
Ouais, nous, dans notre modèle, on avait fixé 300 euros pour les enfants. Voilà. Ce qui est un petit peu plus, mais à peu près équivalent du quotient plus les allocations familiales du système aujourd'hui. Si on prenait le même système, mais du coup... Aujourd'hui, les allocations, c'est qu'à partir du deuxième enfant. Le quotient familial, c'est compliqué, il faut calculer des parts. Et la même enveloppe budgétaire, aujourd'hui, ça ferait à peu près 230 euros par enfant, en donné automatiquement dès le premier. Donc, on n'est pas très loin. Et donc, nous, on se disait, voilà, on pourrait donner 300 euros aux enfants et du coup, 1 000 aux adultes. D'accord. Et on arrive à peu près à 670 milliards de budget, voilà. Mais ce qui n'est pas le coût réel, puisque forcément, en fait, on prend d'un côté et on redonne de l'autre.
Et alors, l'autofinancement, ça représenterait combien déjà?
Sur l'autofinancement, tout dépend de combien on le fixe. Si on part du nôtre, oui. Par exemple, sur les 1 000 euros, donc 1 000 euros par mois, on peut se dire que justement le RSA n'a plus de raison d'être.
Bien sûr.
Qu'on peut aussi supprimer les APL.
Bien sûr.
Et donc là, on en arrive à des sommes qui sont aux alentours de 90 milliards.
Presque 100 milliards.
Voilà. Presque 100 milliards.
On a déjà trouvé 100 milliards qui ne seraient plus versés et donc qui permettent de déjà de financer.
Mais qui sont déjà dans le budget de l'État.
Qui sont déjà dans le budget d'État, bon.
Okay. Ce qui veut dire, par exemple, ça prendrait en compte aussi ça remplacerait plutôt les retraites, les allocations chômage aussi, ou vous avez...
Non, nous, pas les dans bourses. Notre modèle tel qu'on l'a fait. En fait, là, il y a de vraies sources de financement. C'est parce que nous, en fait, on n'a pas une connaissance assez fine. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de perdants parmi les plus pauvres. Et en fait, pour avoir ça, on se dit que si on remplace, parce qu'on pourrait se dire, on remplace les 1 000 premiers euros de retraite par le revenu de base. En fait,
par exemple.
On pourrait se dire. Mais nous, la réflexion qui est derrière, c'est de se dire, peut-être que celui qui a 1 000 euros de retraite, il a aussi le droit à un bout d'APL, il a aussi le droit à un bout de quelque chose. Et en fait, si on supprime ponctuellement, prise une par une, on peut avoir l'impression qu'il n'est pas perdant. Mais par contre, si on ajoute tout, il va être perdant. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas allé jusque-là. Mais on pourrait imaginer de dire, les 750 premiers euros, on les enlève. Et là, il y a des vraies sources de financement parce que pour le coup, les retraites, c'est 250 à 300 milliards par an. Donc là, pour le coup, si on va jusqu'à remettre en cause ça, toujours en bien calculant, parce que c'est là le diable est dans les détails, mais là, il y a des vraies sources d'autofinancement si on va jusque-là. Au niveau du chômage, c'est beaucoup moins élevé, c'est 40 milliards, un peu moins, le chômage par an en France. Ouais. Donc là, la source d'autofinancement est un peu moindre. Et là où il ne faut vraiment pas aller, et où pour nous c'est une vraie barrière, c'est sur la Sécu. Parce que si, là aussi, il y aurait des sources d'autofinancement, mais on voit bien que si un jour on a un cancer, ce n'est pas avec 1 000 euros par mois qu'on va arriver à le faire.
Mais vous aviez parlé tout à l'heure de l'expérience canadienne en disant que dans l'évaluation, il y avait quand même au niveau de la santé moins d'hospitalisation. Donc finalement, sans ponctionner, il y aura des économies qui pourront se faire.
Oui, il y a des économies qui sont difficiles à chiffrer en amont parce qu'on ne peut pas se dire on va gagner 20, 30, 50 milliards sur la Sécu parce qu'on ne sait pas bien en fait. Et puis là, c'est sur 5 ans, alors peut-être que sur 20 ans, c'est encore plus d'économies parce que, en fait, ce qu'on remarque, c'est que la baisse de fréquentation des hôpitaux, c'était moins d'accidents domestiques, par exemple. C'était moins de violences domestiques aussi, moins d'accidents sur la voie publique. Alors, ça peut paraître sans lien, mais visiblement, peut-être les gens étaient plus épanouis, plus heureux.
C'est pas tout dans moins leur vie. De stress, moins de
voilà,
dépression.
Voilà, moins de stress, moins et donc, il y avait moins d'accidents bêtes de la vie quotidienne. Et ça, on peut pas le quantifier. Donc, on peut pas tout à fait se baser. On ne peut pas baser le financement là-dessus parce qu'on ne sait pas exactement quelle est la somme, mais on sait qu'a priori, il y aura un retour à un moment donné.
Alors ça ne fait pas tout, et le solde?
Du coup, après, la deuxième grande famille, c'est la taxation.
Voilà.
Et donc, une des sources de taxation et qui nous paraît juste, c'est le patrimoine. Et donc là, on reprend quelque chose qui est mis en avant par Thomas Piketty. de dire que, par exemple, la taxe foncière, c'est un système qui a été inventé il y a 200 ans, ouais. à une époque où on ne s'endettait pas pour devenir propriétaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a hérité d'un appartement qui vaut 200 000 euros ou quelqu'un qui s'est endetté à hauteur de 150 000 euros pour acheter ce même appartement, finalement, il y a quelqu'un qui possède vraiment 200 000 euros, il y a quelqu'un qui possède 50 000 euros et il paye la même taxe foncière. Donc l'idée, ça serait de dire, ben voilà, on va fusionner l'ISF, qui est en fait une taxe foncière, mais pour les très gros patrimoines, fusionner l'ISF et cette taxe foncière et en faire un taxe sur l'actif net. Donc du coup, là, dans mon exemple, on pourrait taxer sur les 200 000 euros pour celui qui a hérité de l'appartement et sur les 50 000 euros pour celui qui s'est endetté. Et donc là, après, il faut voir comment on le configure et quelle progressivité on met au niveau de ça. Mais ça permet de retirer 150 milliards d'euros environ en solde positif. Parce qu'il faut bien voir dans les modes de calcul, il faut enlever... pour que ça soit juste mathématiquement, il faut quand même prendre en compte ce qu'on a actuellement.
L'ISF, par exemple.
Ouais, voilà. Il faut toujours retrouver les
Le solde serait
face.
De 150 milliards, là.
Ouais. Et puis, ça serait aussi une mesure de justice territoriale, puisqu'aujourd'hui, suivant où on habite en France, pour le même patrimoine, on ne va pas payer la même chose.
Oui.
Alors que si on avait 1% sur les actifs nets, n'importe où, quel que soit notre lieu de résidence, on paierait ce 1%-là.
Ça me fait quand même penser, par rapport au revenu universel, la question de l'égalité territoriale se pose aussi, parce que ce revenu à Paris ou en Lozère, c'est pas le même pouvoir, pouvoir vivre, se
souvent.
Loger, c'est pas pareil.
Et en fait, nous, on pense qu'aujourd'hui, si les loyers, par exemple, sont très chers à Paris et que la vie est très chère à Paris, c'est qu'en fait, l'emploi est central dans notre société et que du coup, tout le monde va à Paris pour trouver un travail et donc ça fait flamber les prix. Si demain, on décentralise l'emploi, peut-être que les gens vont se répartir plus équitablement sur le territoire parce qu'il n'y aura plus besoin absolument d'être à Paris pour avoir un emploi et que donc mathématiquement, la pression, elle va baisser, par exemple sur les logements à Paris et donc peut-être les loyers aussi. Et donc avec 1000 euros, ça sera suffisant aussi à Paris. Ou si ce n'est pas suffisant, dans ce cas-là, pourquoi habiter à Paris puisqu'on n'en a pas vraiment besoin?
Du coup, ça deviendra peut-être plus un vrai choix d'habiter à Paris. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a rencontré le président de l'Association des maires ruraux de France et qui était assez positif sur cette mesure, parce que pour l'instant, c'est l'inverse, en fait, au niveau des subventions sur le culturel ou sur tout ce qui est vie associative. En fait, les urbains sont sur-subventionnés comparés aux ruraux. Et donc là, il disait, le côté la vie est plus chère, certes, mais là, au moins, on donnerait à tout le monde la même somme, et finalement, on subventionnerait quelque part la vie de partout, de la même manière. Il était assez pour...
Donc ça permettrait de revitaliser certains territoires où justement c'est le manque d'emplois salariés qui fait que aussi des personnes ne s'y installent pas.
Oui, et puis ça pourrait aussi permettre peut-être à des activités qui ne sont pas forcément viables pour un temps plein, parce que je ne sais pas si on a une boucherie, une boulangerie, enfin un petit commerce dans un petit village, peut-être que peut-être pas assez de population pour en vivre toute l'année. Et du coup, si on a un revenu universel, on pourra peut-être du coup avoir cette activité-là et donner vie à des villages parce que justement il y a ce revenu universel à côté qui nous permet d'avoir une activité qui serait pas viable pour un temps plein mais peut-être pour un temps partiel.
Ou pas viable dans un premier temps, parce que par exemple une des autres infographies qu'on a fait c'est sur la permaculture et il y a des choses qui sont faites par exemple à la ferme du Bec et Loin où on s'aperçoit que sur un hectare on peut arriver à créer un emploi viable sur cette surface-là, mais par contre souvent c'est pas je m'y mets et c'est rentable.
Il faut du temps.
Et donc, du coup, on se dit que le revenu universel, ça permettrait aussi de stimuler toutes ces initiatives-là, où on voit des gens qui quittent leur emploi pour devenir maraîcher. Et pour l'instant, ça se traduit par 2 ans, 3 ans de précarité, pour ensuite, ceux qui ont les reins assez solides, pouvoir tenir ces 2 et 3 ans et après développer cette activité-là. Et nous, on se dit que ça serait ce côté filet de sécurité qui donnerait le courage et l'énergie et les ressources aux gens pour pouvoir se lancer dans ce type d'activité-là.
Très bien. Est-ce que on peut faire une deuxième pause musicale?
Oui. C'était prévu. Il ne restait pas un quatrième mode de financement? On le verra peut-être.
On le verra après, mais...
C'est un peu plus technique, on peut écouter un peu de musique avant.
Parce qu'il me semblait bien, il y en avait 4. Oui. Yeah, je c'était mets en place bien. La musique. Voilà.
Monday morning feel
Du coup, là, on avait choisi Friday on My Mind des Easy Beats. Et en fait, c'était un peu pour la critique de l'emploi, justement, pour dire, là, la chanson, c'est de dire, dès le lundi, on pense au vendredi, finalement, parce que l'emploi ne nous plaît pas vraiment. Et nous, on espère que le revenu universel, ce soit émancipateur et que du coup, on trouve une activité qui nous plaise et que du coup, on ne pense pas au lendemain ou ni au vendredi, mais qu'on se dise, aujourd'hui, là, au moment où je parle, ça me plaît ce que je fais, quoi.
Très bien, très bien. Bon, alors on en revient au financement, puisque là on s'est reposé, on peut récapituler, et puis faire les additions pour montrer où on en arrive et ce qui manquait, quoi.
Du coup, il y avait trois sources. Le premier, l'autofinancement. Le deuxième, la taxation. Faut finir sur la taxation.
Allons-y.
En fait, il y a forcément une taxation sur le revenu qui va être mise en place. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on dit souvent que ça va coûter plus que le budget de l'État. Mais c'est par exemple quelqu'un de la classe moyenne auquel on va donner 1000 euros, il va potentiellement payer par l'impôt 500 euros. Donc ce que ça va coûter vraiment, c'est que les 500 euros de différence. C'est pas forcément les 1000 euros, parce que pour que ça coûte vraiment plus que le budget de l'État, faudrait qu'il y ait qu'une seule personne qui ait toute la richesse et qui distribue à tous les autres. Ce qui est faux. Donc du coup, on voit que souvent dans les systèmes de revenus de base, il va y avoir une taxation dès le premier euro. Donc ça peut sembler injuste. Par exemple, quelqu'un qui gagne le SMIC, il peut y avoir une taxation à 20%, ce qui est énorme et qui peut être fait. Mais par contre, on voit que voilà, le SMIC, en simplifiant, si c'est 1000 euros, il va être taxé à hauteur de 20% sur ce SMIC, donc 200 euros. Mais par contre, il aura 1000 euros de revenus de base en face.
En plus.
Donc et qui, eux, ne sont pas du tout taxés. Donc le premier euro taxé, c'est sur le revenu supplémentaire en dehors du revenu de base.
On dit que le revenu universel est inaliénable. Voilà. Donc là, il est pas taxé. Et c'est les revenus additionnels qui sont taxés. Et là, dans cette situation-là, donc de celui qui gagne 1000 euros, on voit bien que, certes, il a financé à hauteur de 20% sur ce qu'il gagnait. Mais par contre, sa situation s'est améliorée de 800 euros comparé à la situation actuelle.
Et aujourd'hui, dans les médias, on entend souvent parler que de ce qu'on donne, mais pas du financement, en fait. Et en fait, c'est un peu comme si moi, je vous donnais 10 euros et puis vous me les rendiez, et qu'il disait ça m'a coûté 10 euros.
Ouais.
Alors que, non, ça vous a rien coûté, puisque vous me les avez rendus et vous les aviez pas au départ.
la tranche à 0% disparaît, quoi.
Forcément.
Voilà.
Alors, et la dernière source de financement, qui est plus technique et qu'on ne pense pas forcément, c'est au niveau de la création monétaire. Il faut savoir que la Banque Centrale Européenne, pour créer de l'inflation, parce que dans une économie, il faut qu'il y ait de l'inflation, faut qu'il y ait, le but de la BCE, c'est qu'il y ait 2% d'inflation par an. C'est un peu comme l'huile dans une voiture, l'inflation, il faut que les prix montent, parce que si les prix descendent toujours, on reporte nos achats à plus tard, et tout se casse un peu la gueule. Et pour faire cette inflation à 2%, la BCE actuellement, elle crée de toutes pièces 80 milliards d'euros par mois.
Par mois, oui.
Par mois. Et en fait, elle crée pour des banques privées dans l'objectif que ces banques fassent des prêts aux entreprises, aux particuliers ou aux États.
Le font-elles vraiment ?
Donc là, le problème, c'est celui-là, c'est que ça crée plutôt des bulles spéculatives, voire ça reste dans les banques. Et l'idée, donc ça s'appelle le quantitative easing, et l'idée ça serait de faire du quantitative easing for people et de dire on donne directement cet argent qui est créé directement aux citoyens européens, et là c'est 80 milliards d'euros par mois, ça revient à 230 euros par mois et par citoyen européen. Donc on voit déjà que c'est pas forcément négligeable comme somme.
Ça c'est le dernier volet.
Ça, c'est le dernier volet.
Voilà, qui est un volet potentiellement temporaire, puisque là, le but, c'est de créer de l'inflation. Donc, on ne peut peut-être pas se baser là-dessus pour un revenu universel à long terme, mais dans un premier temps, étant donné que l'argent, il est créé aujourd'hui, pourquoi pas l'utiliser pour ça ?
Plutôt que créer des bulles spéculatives ?
Ça nous paraît... Et puis, du coup, bah, l'argent va directement dans l'économie réelle, puisque les gens, si on leur donne 230 euros, on peut imaginer qu'ils vont le dépenser pour se nourrir, se loger, enfin, pour la vie quotidienne, alors qu'aujourd'hui, les banques, visiblement, ne le font pas, quoi.
Ça va créer de la richesse qui elle-même va générer des impôts qui permettent de payer facilement.
Forcément.
Sur le revenu de base.
Il y a plus d'échanges monétaires et puis il y a toujours
c'est
de la TVA.
C'est un cercle vertueux.
Voilà,
ouais.
Et ce qu'on oublie, hein, même si effectivement ce n'est pas du fonctionnement non plus, mais c'est combien on a donné aux banques après la crise de 2008 pour qu'elles se renflouent. Et là, c'était, j'allais dire, à perte. Hein.
Oui, mais là,
ça représentait aussi.
C'est un petit peu pareil. Enfin, c'est pas à perte, mais c'est de la création monétaire pure. Donc, c'est de l'argent qui n'existe pas et que tous les mois, la banque crée de nulle part. Donc, c'est du rachat de dettes, en fait. Ils effacent des dettes auprès des banques pour financer ça.
Et ce qui est marrant, c'est qu'on a moins. On s'est moins posé la question de comment financer à ce moment-là. Il y a eu moins de débats en disant c'est utopique.
C'était un peu le pied du mur. Voilà, c'est qu'on regardait, c'était les erreurs du passé plutôt que se poser la question du futur.
Oui, et puis après, on a des économistes qui sont souvent un peu tous du même avis et qui disent il faut absolument renflouer les banques, sinon tout va s'écrouler. Mmh. Donc nous, on a tendance à les croire parce qu'on n'est pas économiste. Et par exemple, en Islande, ils ne l'ont pas fait. Il y a une banque qui a fait faillite. Et en fait, on a l'impression que l'Islande n'a pas fait faillite. Enfin, je n'ai pas l'impression qu'ils soient tombés dans la misère, les Islandais. Quoi.
Les responsables ont même été poursuivis.
En plus.
Et certains ont même payé.
Voilà, donc voilà. C'est un choix de société. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on dit un peu pour le revenu universel. C'est un choix de société. Ce n'est pas l'argent, le problème de l'argent. Si on a envie de faire ce choix, alors on le trouve. Mais du coup, c'est un vrai choix. Quoi. Est-ce qu'on a envie de le faire ou pas ?
Alors, vous avez commencé un Tour de France ?
Un Tour de France du revenu universel. Donc là, on a déjà fait 7 dates. Donc on est parti chez nous, donc Romain en
Sud-Ardèche. Ouais.
Moi à Gap, dans les Alpes du Sud. Et après, on a fait le tour de notre espace de coworking. Donc c'est l'Accordé, un espace où on travaille tous les deux. On est entrepreneur salarié. Et donc on a fait Rennes, Nantes, Paris, Annecy et Lyon.
Dis donc.
Et donc du coup, à chaque fois, c'était l'idée de... C'est un espace de coworking au niveau français, donc on a un peu des espaces partout en France. Donc ils nous ont prêté gracieusement les salles et le but, c'est de donner les... En fait, on en parle de plus en plus dans le débat actuel.
Oui.
Et on voit bien, et c'est ce qu'on a envie que vous reteniez de cette émission, c'est de dire, il y a un concept, mais il y a plein de concrétisations possibles et chacun doit se positionner sur pourquoi il voudrait le mettre en place, à combien il voudrait le mettre en place, quelle est la part d'autofinancement, quelle est la part de redistribution. Et donc, l'idée, c'est de donner les armes aux gens. Et on va continuer.
Voilà, on a intitulé ça « Revenu universel, 2 heures pour tout comprendre ». En fait, l'idée, nous, c'est qu'on fait une présentation qui dure à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Et après, le reste du temps, c'est des échanges avec le public, avec les gens qui sont là, par rapport aux questions qu'ils ont. Et voilà, on déroule un peu.
Et est-ce qu'on vous a posé la question se préoccuper du fait que certains voudraient plus travailler, par exemple ?
Oui, ça c'est une,
alors, qu'est-ce que...
c'est une critique qui qu'on arrive
entend quelques
souvent.
Fois, je me permets de...
une des premières questions, on l'a même intégrée à la présentation tellement on nous la pose souvent.
Alors qu'est-ce que vous
et
dites
en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a eu une petite enquête qui a été faite en France à l'automne dernier. Là. Et en fait, les gens, quand on leur demande si les autres arrêteraient de travailler, ils pensent que 64% des autres arrêteraient de travailler. Oh,
mais eux
non. Eux non.
À 85%, les gens disent voilà.
Moi je continue.
Moi, je continue.
Du coup, on voit bien cet écart entre ce qu'on pense des autres et ce qu'on pense de soi-même. Voilà. Et nous, ce qu'on conclut, c'est de dire pensez à vous, qu'est-ce que vous feriez avec ça, et pensez pas aux autres ce qu'ils feraient avec.
Et après, dans les expérimentations, on voit souvent que c'est plutôt faible, ces taux de réduction du temps d'emploi. Mais pour nous, même si c'est faible et même s'il y en a un petit peu, ça peut être quelque chose qui est intéressant parce qu'on oppose souvent réduction du temps de travail et revenu universel. Nous, dans notre vision idéale, c'est deux choses qui peuvent être hyper complémentaires.
Au contraire, en même temps, oui. Voilà.
Oui, oui. Si on donne 1000 euros, on peut se dire que du coup, on peut travailler moins, enfin, être employé moins, avoir un travail rémunéré plus faible. Et du coup, ça ouvre du temps pour les autres.
Libère du travail pour exactement. D'autres qui en cherchent,
on
qui
le partage
voudraient bien
plus,
en avoir. Et c'est le partage du travail peut mieux s'inscrire. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi d'avoir une population qui soit à la limite de la pauvreté et où certaines entreprises pourraient puiser en se basant là-dessus pour rémunérer de façon plus faible ?
Tout dépend le montant.
Tout dépend le montant.
Nous, c'est pour ça qu'il y a des vrais débats au sein de la communauté qui milite pour le revenu de base.
Bien sûr.
Nous, pour nous, c'est un des vrais risques si on ne donne pas, justement, un revenu universel suffisant.
Dont en on fait. Parlait tout à l'heure, pour avoir le vrai pouvoir de négociation, voilà. Pour voilà, pouvoir ouais. choisir
coup,
ses faut, conditions de
il
travail.
Il faut pouvoir dire non.
Il faut pouvoir dire non. C'est la base d'une négociation, c'est que les deux parties puissent dire oui, mais aussi non. S'il y a une partie... qui peut pas dire non, alors voilà. C'est plus une négociation.
Donc le niveau doit au moins être au niveau où on peut au moins dire non.
Voilà. Et du coup, on n'aura pas ce risque voilà. de baisse des salaires.
Et ça supprime. Et
sachant que les travailleurs pauvres existent déjà aujourd'hui.
Oui, c'est pour ça souvent on oppose ça à la valeur travail, c'est ce qu'on ouais. entend beaucoup dans les débats. Et en fait, la valeur travail, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des gens, il y a des SDF qui travaillent, je crois que c'est un tiers des SDF à peu près qui ont un emploi. On a souvent l'exemple des agriculteurs qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, alors voilà. que pour le coup, ils font beaucoup d'heures. Donc la valeur travail, il nous semble que c'est pas du tout opposé au revenu universel.
Voilà. Et est-ce que le revenu universel, c'est pas un élément qui pourrait faire en sorte qu'on ne recherche plus le plein emploi, par exemple ?
Si, ben, après...
Me fais un peu l'avocat du diable, hein, pour...
Non, mais tout à fait. Mais en fait, c'est, ben, une des sources d'autofinancement, justement, ça serait celle-là. Parce que, en fait, pour l'instant, on met tout en œuvre pour arriver au plein emploi, pour faire de la croissance, pour faire des choses comme ça.
Croissance.
Et par exemple, le CICE et la réduction Fillon sur les bas salaires, c'est quelque chose qui coûte 50 milliards d'euros par an à l'État. Et de se dire, ben, est-ce qu'il vaut mieux mettre ces 50 milliards d'euros-là pour stimuler la création d'emplois ou pour stimuler la croissance, ou est-ce qu'il vaut mieux les donner aux gens et leur faire confiance dans la création d'activités et dans le...
Surtout que ça n'a pas stimulé l'activité ni la croissance. Donc,
non, et puis nous, il y a une chose qu'on montre dans notre présentation justement, c'est que nous, on nous parle d'utopie quand on parle du revenu universel, et on dit la vraie utopie, c'est le plein emploi en fait. Parce qu'on nous dit qu'il faut 2% de croissance ou 1,5% pour créer des emplois. Et en fait, on voit bien que la croissance, elle diminue d'année en année. Dans les années 60, c'était de 4%, je crois, à peu près. Aujourd'hui, c'est à peine au-dessus de 1.
À peine, oui.
Donc, du coup, ça baisse, ça fait que baisser. Et on nous dit qu'il faut absolument arriver à 2. Et de la même manière, le plein emploi, en fait, la dernière fois qu'en France, il y a eu du plein emploi, c'était dans les années 60, fin des années 60. Et en fait, il y avait la moitié des femmes qui ne travaillaient pas. Donc, il y avait un quart de la population active qui n'était pas sur le marché de l'emploi au moment où tout le monde, soi-disant, travaillait. Et finalement, nous, ce qu'on dit, c'est est-ce que votre modèle de société, c'est de renvoyer les femmes à la maison ou faire une troisième guerre mondiale pour avoir du plein emploi ? Nous, on pense que non. Mais du coup, voilà, c'est ça. Pour nous, c'est ça la vraie utopie, c'est la croissance et le plein emploi.
Bien sûr, bien sûr.
Ce qui est intéressant, on peut revenir à la définition que nous, on fait de l'écologie humaniste. En fait, l'économie, ça vient du grec ancien « oikonomia », qui est l'administration du foyer. Et en fait, si on fait le parallèle avec l'économie actuelle, pour l'instant, si on fait le parallèle au niveau du foyer, donc qui est l'environnement, l'humain, c'est nous qui vivons dans la maison, et l'économie, c'est la maison qui tourne bien, on pourrait se dire, l'économie, c'est de dire, ben voilà, il y a de la vaisselle à faire, il y a du ménage à faire, et en fait, on a automatisé de plus en plus ces tâches-là. Et donc, dans une maison, dès qu'on a automatisé la vaisselle ou qu'on a automatisé le ménage, ben, on est plutôt content et on utilise ce temps libéré pour faire autre chose. Tandis que là, pour l'instant, on est dans une situation où on dit ben, « il faut absolument que je crée du travail et que je fasse des choses dans ma maison », alors qu'on pourrait dire ben, « non, c'est très bien, le progrès c'est très bien, ça nous a libéré du temps, on va le partager et on va faire en sorte de pouvoir en profiter et de ne pas s'aliéner à l'emploi et au tout emploi ».
Ça peut permettre aussi une réduction du temps de travail pour ceux qui en ont trop et qui permettent à ceux qui en ont pas d'en
voilà,
avoir un
nous
peu.
C'est pour ça qu'aussi hein on met on pense que la liberté c'est important.
Ouais.
C'est-à-dire que le revenu universel c'est un outil de liberté. Si on a envie de travailler 200 heures par semaine, voilà, on peut le faire. Ouais. Mais si on a envie d'en travailler 15, on peut aussi. Et voilà. Et donc on espère que ça puisse aussi réguler la vie de chacun. Si on est épanoui en travaillant beaucoup, bah pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui subissent. Et que ceux qui choisissent.
Qu'on pense d'un temps partiel qui est souvent subi à un temps partiel qui est choisi. C'est ça le côté liberté qu'il y a derrière aussi pour.
Et puis ça peut permettre peut-être de faire autre chose, de se former, de participer à des activités autres, sportives, artistiques, d'avoir une vie différente, en fonction aussi peut-être de nos âges, d'organiser une vie avec des activités diverses et variées tout au long de la vie que l'on mène. Je vais laisser bientôt le micro à Radio Info, oui.
Et votre site, vos infographies, si on veut les recevoir, comment on procède ?
Leséco-humanistes.fr. Et donc on a une newsletter, on en envoie une par mois où on envoie notre nouvelle newsletter, la nouvelle infographie.
Eh bien merci Romain, merci.
C'est un lien qu'on mettra sur le blog de l'émission Le Grain de Sable sur Radio Canu et également sur Attaque, avec l'émission qui pourrait être donc réécoutée et téléchargée.
Ben merci
et on vous
laisse
avec le Canu Info.
WTO, kids promise, don't, don't, WTO!